Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. C'est désormais presque une tradition. Le premier chef d'État étranger à être reçu à la Maison-Blanche est le chef du gouvernement japonais. Ce fut le cas avec Donald Trump, ce fut le cas aussi avec Joe Biden. À cette occasion, en avril dernier, Yoshihide Suga et le président américain se sont engagés à faire face ensemble aux défis posés par la Chine sur des problématiques telles que celles de la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale et aussi de la Corée du Nord. Le choix comme premier invité du dirigeant nippon qui a été suivi en mai par le président sud-coréen reflète la priorité donnée par Joe Biden aux alliés les plus proches des États-Unis, notamment en Asie où se joue la compétition face à l'adversaire stratégique numéro 1 de Washington. C'est aussi en Asie que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a effectué sa première tournée diplomatique Japon et Corée du Sud accompagné du secrétaire à la défense. L'importance accordée au théâtre asiatique n'est plus à démontrer. L'Asie de l'Est est sans nul doute la région du monde qui concentre aujourd'hui à la fois le plus d'intérêt et aussi de tension, se trouvant prise entre les deux fronts d'une rivalité sino-américaine qui oblige les États de cette partie du monde à adapter leur positionnement vis-à-vis des deux grandes puissances et particulièrement d'une Chine dont l'assurance politique et militaire croissante s'exerce aux dépens de ses voisins. Doit-on considérer l'Asie de l'Est comme un laboratoire, espace où s'affirme sans phare la puissance chinoise et où s'articulent les réponses des uns et des autres, dans un contexte où il est à la fois difficile d'exister contre la Chine, est nécessaire d'inventer des règles de coexistence avec cette nouvelle puissance. Le destin de l'Asie de l'Est est aussi le nôtre, raison de plus de s'y intéresser. C'est ce que fait dans son dernier numéro la revue Politique étrangère sous le titre « L'Asie de l'Est face à la Chine », un dossier dirigé par Marc Julienne, nos invités. Marc Julienne, donc chercheur responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Antoine Bondaz, directeur des programmes Corée et Taïwan à la Fondation pour la Recherche stratégique et enseignant à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone depuis Washington, Nadège Roland, chercheuse au National Bureau of Asian Research et non-resident fellow au Lowy Institute. Bonjour.
Bonjour.
Au mois de juin, Joe Biden rencontrait les dirigeants du G7, ceux du D10. C'est le G7 plus l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde, puis ceux des 30 pays membres de l'OTAN. À l'heure où la Chine célébrait en grande pompe le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, une intense activité diplomatique de la part de Joe Biden sur fond d'une question centrale, comment faire face à la Chine, ou plutôt à cette Chine qui promet de fracasser la tête et répandre le sang de tous ceux qui voudraient l'intimider, selon les termes fleuris du numéro 1 chinois Xi Jinping. Le spectre chinois hante plus que jamais la réflexion géopolitique autour d'énigmes sur ce que sera demain la Chine, sa place dans sa région, son poids dans le monde, les stratégies à adopter vis-à-vis de l'émergence d'un poids lourd du 21e siècle. Face au Japon, aux deux Corées, à Taïwan, à l'Australie, aux membres de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, Pékin déploie toute la palette de ses moyens dans une affirmation de force qui paraît sans limite et qui n'est pas sans danger. Une assurance politique et militaire qui s'exerce aux dépens de ses voisins. Première question sur ce débat. Comment ces derniers, donc les voisins de la Chine, ménagent-ils leurs intérêts et leur vulnérabilité face à l'imposante puissance chinoise? Est-ce qu'il y a, Marc Julienne, des dynamiques communes à ces pays dans leur relation à la Chine?
Alors oui, bien sûr, et c'est vraiment ce qui ressort de ces 5 articles dans le dossier de politique étrangère, notamment le fait que au milieu des années 2010, on constate une rupture dans les relations diplomatiques entre la Chine et ses voisins. Jusque vers 2015-2016, les relations étaient plutôt bonnes en fait, avec la Corée du Sud, avec le Japon, même avec Taïwan. Hein. Il faut se rappeler que fin 2015, il y a eu un sommet entre le chef d'État chinois Xi Jinping et Ma Ying-jeou, le président taïwanais, un sommet historique. Et y compris avec l'Asie du Sud-Est et l'Australie, les relations allaient plutôt bien. Et puis, dans la seconde moitié de la décennie 2010, on constate vraiment une dégradation très forte et très rapide des relations avec tous ces pays-là. Et donc, face à ça, alors, se dégagent d'autres tendances communes, qui peut expliquer d'ailleurs cette dégradation des relations diplomatiques. C'est la coercition chinoise sur le plan stratégique et militaire. Et l'autre pendant, c'est au niveau économique, avec des pressions économiques sous forme de blocus, d'embargo, de boycott, etc. Et donc, toute action de la Chine entraîne une réaction. Et donc, les stratégies mises en œuvre par ces différents pays, parfois, se rejoignent. C'est la diversification des partenaires commerciaux, donc diversifier les exportations ou les sources d'importation économiques, et renforcer et diversifier aussi les partenaires stratégiques ou militaires. Et là, évidemment, c'est le rôle des États-Unis qui se renforce. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, avec le retour des États-Unis de Joe Biden dans la région. Et donc là, au-delà de ces relations bilatérales à cette échelle régionale, on a véritablement la rivalité sino-américaine qui s'exprime dans cette zone de l'Asie de l'Est. Et donc, c'est les États qui renforcent leurs relations avec les États-Unis face à une Chine de plus en plus agressive.
Alors, on détaillera bien sûr, parce que c'est intéressant de pouvoir comparer le Japon à la Corée du Sud et de voir combien la rivalité sino-américaine peut placer certains de ces pays dans des situations particulièrement d'équilibre instable. En tout cas, est-ce qu'on peut dire, Antoine Bondas, que l'optimisme qu'avait généré au départ l'émergence de la Chine dans cet environnement asiatique où il y avait effectivement beaucoup d'intérêt à tirer, est-ce que cette page-là est tournée ?
Je pense qu'elle est tournée et qu'elle a été tournée, comme le disait Marc, il y a déjà de nombreuses années. Ce qu'on appelait la fièvre jaune, entre guillemets, en Corée du Sud, c'est-à-dire la volonté de renforcer considérablement les liens avant tout économiques, mais aussi culturels, universitaires, avec la Chine, c'est au début des années 2000. Et depuis 5 ans, mais depuis même plus longtemps, les différents pays de la région, quelle que soit leur taille, le plus grand, le Japon, et des pays avec évidemment des capacités plus réduites comme le Laos ou le Cambodge, font face en réalité au même dilemme. C'est comment gérer dans la région déjà, dès aujourd'hui, une bipolarisation entre guillemets, avec d'un côté les États-Unis, qui étaient la grande puissance historique en réalité de l'Asie, en tout cas depuis la fin de la guerre froide, et puis la puissance émergente, la Chine, avec un problème supplémentaire pour de nombreux de ces pays, c'est qu'il y a à la fois une dépendance sécuritaire aux États-Unis et de plus en plus une dépendance économique à la Chine. Et ce qui est intéressant, et vous le disiez dans l'introduction, c'est se poser la question de savoir si l'Asie n'est pas un laboratoire pour les autres. Et évidemment que c'est un laboratoire pour les autres. L'ensemble des questions que se posent aujourd'hui les Européens, ce sont des questions que les Japonais, les Coréens, les Taïwanais se sont posées depuis 10 ans ou 15 ans. Comment faire face aux stratégies d'influence ou aux manipulations de l'information chinoise? Comment faire face à la, et Marc le rappelait, la coercition économique de la Chine, qui, sans jamais le reconnaître, évidemment utilise cette dépendance économique à des fins politiques. Et c'est en cela que les échanges entre les Européens et les Asiatiques, entre les Français et les Japonais, les Français et les Coréens, les Français et les Taïwanais, peuvent être extrêmement utiles et enrichissantes pour nous, pour mieux comprendre la stratégie que ces pays ont adoptée et peut-être mieux adapter les nôtres.
Alors, on va évidemment se tourner vers vous, Nadège Roland, pour parler de l'Australie, qui est le pays par excellence qui, finalement, a placé ses illusions dans sa poche pour avoir une politique vis-à-vis de la Chine qui vient se mettre, d'une certaine manière, en opposition. Mais juste un petit mot sur les réactions des uns et des autres et cette situation, on le développera plus tard, entre les intérêts économiques, d'une part, et puis les intérêts stratégiques. On a vu précisément à l'occasion de la visite du numéro 1 japonais à Washington, finalement Tokyo s'abstenir de se joindre aux sanctions américaines contre la répression des musulmans ouïghours par les autorités chinoises. Et la question qui se pose aujourd'hui de savoir si oui ou non Tokyo apportera son soutien à Taipei, capitale de Taïwan. On développera l'Australie. Nadège Roland est vraiment sortie du bois il y a quelques années pour s'opposer à la Chine. Expliquez-nous comment s'est faite cette prise de conscience australienne de la situation que générait la Chine sur ce pays continent.
Pour l'Australie, c'est le même paradoxe que celui que Marc et Antoine viennent de décrire, c'est-à-dire une très grande interdépendance économique avec la Chine et à la fois des inquiétudes sur le plan sécuritaire et militaire notamment. Donc pour l'allié des Américains, qui est l'Australie, c'est vrai qu'une partie de sa défense et sa sécurité a toujours été tournée vers l'allié américain. Et puis, cette assurance que vous décriviez, un petit peu plus importante sur les frontières maritimes chinoises autour de 2009-2010, a commencé vraiment à susciter plus de préparation sur le plan sécuritaire à Canberra. Mais dans le même temps, pendant longtemps, encore beaucoup d'espoir sur la capacité de cette interdépendance économique à promouvoir la prospérité et la croissance en Australie. Il faut savoir que l'Australie est quand même un des rares pays qui s'est remarquablement bien tiré des conséquences de la crise économique et financière mondiale de 2008, notamment grâce à ses exportations vers la Chine. Ce qui a suscité une sorte de réveil et de prise de conscience de cette assurance et ingérence de la Chine dans ses affaires intérieures, ce sont une série d'affaires qui ont été révélées entre des sénateurs, un sénateur en particulier travailliste australien et un homme d'affaires multimillionnaire chinois faisait vraiment office d'affaires de collusion et qui a eu un impact sur la scène politique lorsqu'il a été révélé dans la presse. Il y a eu énormément de reportages qui ont été faits par la presse australienne sur les influences, l'emprise chinoise sur le système politique australien. Et c'est à partir de ce moment-là, autour de 2016-2017, que vraiment la prise de conscience sur le fait que ce partenaire économique essaye aussi, grâce à sa puissance économique, d'influencer la politique australienne, a vraiment marqué un tournant dans l'approche australienne de la relation avec la Chine.
Et dans le cadre de la préparation de cette émission, je lisais, Nadège Roland, pour abonder dans votre sens, que Canberra avait décidé finalement que les ingérences étrangères représentaient un risque aussi grand que le terrorisme. Alors, je ne sais pas si c'est excessif ou pas, mais en tout cas, voilà, ça a été prononcé, je crois, par un ministre. Il y a en tout cas, en Australie, un débat public sur la question de la relation avec la Chine.
Ah oui, le débat public est extrêmement important et puis très vivace, très très présent en fait hein, sur la place publique, l'opinion publique, les médias, les Australiens en général sont très très impliqués, mais il faut aussi comprendre que les communautés chinoises sont très importantes en Australie. Hein. Il y a plus d'un million d'Australiens qui sont d'origine chinoise. Il y a une présence historique très importante depuis le milieu du 19e siècle. Donc, les communautés australiennes d'origine chinoise sont extrêmement bien imbriquées dans le tissu social, économique et politique du pays. Et en fait, ça complique un petit peu la donne parce que la relation avec les actions coercitives du parti État à Pékin crée des dissensions aussi en interne dans la population. On peut imaginer que une posture plus ferme contre ces activités néfastes de Pékin peuvent se retourner contre ces populations. C'est-à-dire que les Australiens ne font pas forcément la différence entre une politique qui est censée être ferme vis-à-vis des autorités politiques à Pékin et puis leurs concitoyens australiens d'origine chinoise qui n'ont absolument rien à voir avec ce que veut le parti communiste chinois. Donc c'est un débat qui est intense, qui est très vif, qui est porté sur la place publique notamment par un travail très très important à la fois des journalistes, reporters et des experts sinologues chinois dans les centres de recherche qui ont fait des recherches et des publications qui ont énormément influencé la façon dont le grand public voit les différents aspects de cette émergence chinoise dans leur pays.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, on va se rapprocher géographiquement du continent chinois pour évoquer la situation en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale. Est-ce qu'on retrouve, Marc Julien, dans d'autres pays plus proches de la Chine que l'est l'Australie géographiquement, ce même type de débat public ?
Oui, bien sûr, au premier titre, probablement à Taïwan, où l'ingérence, l'influence sur les réseaux et dans le débat public est très forte. Et effectivement, la Chine devient probablement un sujet de débat public de plus en plus important, en particulier à l'approche d'élections. Je pense à des élections qu'il va falloir surveiller, celles des Philippines qui auront lieu dans moins d'un an maintenant, où justement le président actuel, qui est arrivé en 2016, est plutôt très favorable à Pékin. Et en fait, aujourd'hui, on comprend mal cette rationalité, mais la Chine, ces derniers mois, et particulièrement depuis 2021, a encore accentué la pression militaire ou paramilitaire grâce à la milice maritime dans les eaux philippines. Et donc l'essentiel de l'administration philippine aujourd'hui, et en particulier l'armée, s'oppose maintenant au président philippin Duterte pour justement avoir une position plus ferme et plus exigeante à l'égard de Pékin. Donc ce sont des choses qui vont peser dans les élections. Et je parlais des Philippines, mais évidemment qu'à Taïwan, la reprise en main de Hong Kong depuis 2019 a jouer très significativement dans le score de la présidente Tsai Ing-wen lors des dernières élections en janvier 2020, où elle a été réélue avec un score record et même historique dans l'histoire de cette jeune démocratie.
Alors, je vous laisse rebondir, Antoine Mandas, peut-être sur la question taïwanaise. En tout cas, juste pour repréciser les choses, après l'euphorie et l'optimisme dont on parlait un peu plus tôt dans l'émission, suite au début de l'émergence de la Chine, il y a cette prise de conscience aujourd'hui que les choses vues de Pékin, sans la maîtrise de son environnement immédiat, la Chine ne parviendra pas à impacter l'ordre mondial, c'est ce qui explique tous les moyens déployés aujourd'hui par la Chine dans cet environnement.
Antoine Bondaz. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est que la Chine connaît une dynamique qui est sans précédent et qui la différencie considérablement des autres pays, y compris ceux qui connaissent une croissance économique importante. La Chine, les dépenses militaires de la Chine, en l'espace de 20 ans, elles ont été multipliées par 12. Quand les dépenses militaires à Taïwan ou au Japon stagnaient. Et donc vous avez aujourd'hui un pays qui n'est plus du tout celui d'il y a 20 ans. Et donc un nécessaire réajustement de la politique étrangère, de ses voisins, mais aussi des États-Unis, des Européens, etc. L'objectif pour la Chine dans ce contexte-là, c'est de poursuivre une émergence. C'est ce que Yan Xuetong, qui est considéré comme étant relativement proche de Xi Jinping, qui est le doyen de l'école des relations internationales de l'université Tsinghua, qualifie souvent de paradoxe de l'ascension, c'est-à-dire comment la Chine peut maintenir un taux de croissance important et surtout, en termes de rapport de force internationale, continue à croître et, in fine, atteindre une position dominante. Et il y a depuis des années des débats en Chine sur la meilleure stratégie à adopter. Aujourd'hui, la ligne qui est choisie, il faut être extrêmement clair, c'est celle du rapport de force. Il y a une perception à Pékin qui est celle d'un déclin relatif des États-Unis. C'était déjà le cas il y a quasiment 15 ans dans la crise de 2008-2009, mais que ce déclin aujourd'hui s'accélère et que deuxièmement, que le modèle même américain, le modèle de la démocratie libérale, est aujourd'hui en déclin. Et donc, vous avez un pays qui, du fait de ses nouvelles capacités et du fait de cette conjoncture où les stratèges chinois considèrent qu'ils ont une opportunité, vont essayer d'avancer leur pion. On le voit en mer de Chine méridionale, on le voit dans le rapport plus large avec Taïwan, avec les Européens, etc. Le principal problème, par contre, de Pékin, c'est que le pays reste en réalité dans une insécurité qui est très grande. Il faut regarder le centre du pouvoir économique, démographique, politique en Chine. La Chine, aujourd'hui, elle est vulnérable. Un pays comme la Corée du Sud est à moins de 1000 km de Pékin et de Shanghai. Taïwan, qui n'est pas un territoire de fait chinois, est à moins de 400-300 km des côtes chinoises. Et donc, vous avez à la fois, entre guillemets, ce qui peut sembler très paradoxal, d'un côté, la nécessité de poursuivre une croissance et d'assumer un rapport de force, et dans le même temps, un complexe d'insécurité chinois qui est très important et qui explique en partie pourquoi la Chine va parfois surjouer ses relations, notamment avec Taïwan, et que vous voyez bien que dans le détroit de Taïwan, c'est des démonstrations de force permanentes, des incursions aériennes dans ce qu'on appelle la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan, une pression économique, une pression politique. Mais le problème aujourd'hui de la Chine, c'est qu'il y a une réaction. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de réaction. Sur Taïwan, c'était un non-sujet. Non pas que les gens n'y réfléchissaient pas, mais en tout cas, ce n'était pas rendu public. L'énorme évolution de ces 6 derniers mois, c'est vraiment ces 6 derniers mois, c'est que tout le monde en parle. Dans toutes les déclarations bilatérales des États-Unis avec ses alliés, que ce soit les Japonais, les Coréens, dans le cadre de l'OTAN, désormais également l'Union européenne, de façon autonome, mentionne Taïwan. Non pas les relations avec Taïwan, évidemment, mais la nécessité de maintenir le statu quo avec Taïwan. Et donc, on est dans une situation qui est, encore une fois, très paradoxale. Une Chine qui, de fait, voit là une opportunité, cherche à s'affirmer, en même temps une réaction internationale, et la gestion par la Chine, justement, de cette confrontation qui est aujourd'hui de plus en plus avérée.
On vous retrouve, Antoine Bondaz, ainsi que Nadège Roland, qui est avec nous par téléphone depuis Washington, et Marc Julien, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Chine et l'Asie de l'Est à l'occasion de la parution du dernier numéro de la revue Politique étrangère consacrée à cette question. Nos invités, Marc Julien, qui a dirigé le dossier dans Politique étrangère, chercheur et responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI. Antoine Bondaz, également en studio, qui est directeur des programmes Corée et Taïwan à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po, et par téléphone depuis Washington, Nadège Roland, chercheuse au National Bureau of Asian Research et non-resident fellow au Lowy Institute. Nadège Roland, on a terminé la première partie de l'émission sur cette politique de coercition de la Chine et cette pression qui s'exerce particulièrement à Taïwan, et cette question un peu paradoxale, finalement, plus la pression chinoise est importante, plus il y a une prise de conscience à l'international de la difficulté de la situation ainsi générée. C'est le cas du soutien à Taïwan. Et Antoine Bondaz évoquait le défi relatif des États-Unis. Il y a un sujet d'actualité qui doit peut-être être mentionné, c'est le retrait américain d'Afghanistan, qui permet d'envisager que cela libère du temps, de l'attention et des ressources pour les États-Unis. Ça leur permettra de se concentrer peut-être davantage sur la région Indo-Pacifique. Votre commentaire, Nadège Roland ?
Ce qui est intéressant avec l'Afghanistan, c'est qu'en fait, après les attentats du 11 septembre 2001, c'est à ce moment-là que les stratèges chinois commencent à formuler l'idée d'une période d'opportunité de 20 ans qui s'ouvre, c'est-à-dire une période pendant laquelle les États-Unis vont effectivement détourner leur attention complètement sur les questions de terrorisme et ne pas vraiment s'occuper de ce qui se passe en Asie et laisser à la Chine l'opportunité de se développer et de consolider sa puissance. Et c'était une période de 20 ans, je pense qu'ils ont assez bien calculé, on se retrouve 20 ans plus tard et les États-Unis se retirent d'Afghanistan, laissant effectivement la possibilité d'une concentration de leurs efforts militaires et stratégiques beaucoup plus sur la zone Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique. Donc je pense que du point de vue de Pékin, ça n'est pas une surprise. Et puis c'est le paradoxe effectivement de cette montée en puissance extrêmement formidable qui est que la Chine est un éléphant. On ne peut pas ne pas la voir dans le paysage. Elle est extrêmement importante et donc au bout d'un moment, elle va utiliser cette puissance pour défendre ses intérêts et ça va forcément créer des tensions, des frictions et peut-être même des conflits avec la région et avec les Américains. Donc je pense que c'est quelque chose qui est perçu. Et je voulais juste revenir sur cette idée de rapport de force qu'Antoine Bondaz décrivait très très bien tout à l'heure. C'est vrai qu'en Asie de l'Est, ces rapports de force et ces coercitions et ces pressions, elles sont très très visibles militairement. Hein. Il y a vraiment une pression militaire qui est importante. Plus on s'éloigne de ce cercle concentré proche de la Chine, et plus les moyens de coercition deviennent économiques. Tout ce qu'on voit arriver en Australie en ce moment, c'est principalement des outils de coercition économique, des boycotts ou des appels au boycott des produits australiens. Et ça, on parlait de leçons à tirer pour d'autres pays, c'est quelque chose que l'Europe doit garder en tête et je pense commence à percevoir. L'affirmation de puissance chinoise n'est pas forcément pour les Européens nécessairement dans le domaine militaire, mais également sur le plan de cette interdépendance économique qui donc crée des leviers et des moyens de coercition possibles de la part de Pékin.
Pour aller plus loin, ce que dit Nadège Roland, finalement, Marc Julien, les relations sino-australiennes, d'une certaine manière, peuvent être pour nous, Européens, un enseignement ?
Absolument, et c'est pour ça que je pense que l'article de Nadège Roland est salutaire, et j'espère que beaucoup de monde le lira dans le grand public, mais aussi auprès des décideurs. Enfin, l'hypothèse qu'on peut poser, c'est que l'Australie, en fait, préfigure ce qui peut arriver en Europe ou ce qui arrive en Europe. Nadège Roland a rappelé qu'il y avait eu un travail d'enquête journalistique très important qui avait permis de mettre en valeur justement l'entrisme chinois aussi bien dans le secteur industriel ou culturel et surtout politique. L'Australie, c'est un État fédéral où aussi bien au sein des États fédérés qu'au niveau fédéral, il y avait des collusions très fortes entre des responsables australiens et des officiels, voire le renseignement chinois. On voit depuis quelques mois, et sans doute que le Covid-19 est passé par là, qu'en Europe, et en France en particulier, ces derniers mois, on a vu beaucoup d'enquêtes journalistiques sur justement des influences chinoises en France ou en Europe. Je sais que la République tchèque aussi est un cas très intéressant sur ce sujet-là. On a vu par exemple, au début de l'année, en janvier, un groupe d'amitié Union européenne-Chine au sein du Parlement européen, présidé par un parlementaire tchèque, être suspendu pour justement la trop grande proximité que ce groupe-là avait avec Pékin, sans aucun contrôle du Parlement européen sur ce groupe-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui émergent en France et en Europe, et je souhaite effectivement que le dialogue avec l'Australie et que la connaissance du cas australien soit plus répandue, plus mieux connue en France.
En tout cas, on sait que la Chine sait particulièrement bien y faire, Antoine Bondaz, pour diviser les Européens à la lecture de ces partenariats développés avec précisément des pays d'Europe de l'Est. Marc Julien évoquait la pandémie. Est-ce qu'elle a, cette pandémie, d'après vous, contribué à ouvrir les yeux un peu de la communauté internationale avec cette diplomatie chinoise de grands frères protecteurs vaccinal? Finalement, là aussi, c'est quelque chose qui a un effet boomerang sur la politique de Pékin.
Bien sûr, je dirais que la pandémie, elle a eu un rôle de révélateur et d'amplificateur de tendances qui préexistaient. La diplomatie sanitaire de la Chine, par exemple. Les routes de la soie de la santé, elles sont lancées en 2015. Le premier partenariat avec l'OMS est signé en 2017, mais elles deviennent véritablement visibles aux yeux du très grand public et notamment des Européens au milieu de l'année 2020. On le voit avec la question de la coercition économique, on en a déjà beaucoup parlé, mais aussi de notre dépendance, notamment vis-à-vis de certains biens critiques. Et c'est très intéressant, notamment, que l'Union européenne ait publié une liste d'à peu près 150 biens critiques. Et dans 50% des cas, nous sommes dépendants d'un seul pays, la Chine. Et donc, la pandémie a permis de faire prendre conscience en Europe de la nature de la relation avec la Chine, de la nature de la politique étrangère de la Chine. Mais je dirais que cette prise de conscience, elle est beaucoup plus ancienne en Corée du Sud, beaucoup plus ancienne au Japon. Le Japon, c'est 2012, quand vous avez, de fait, un embargo chinois sur l'exportation de terres rares à destination du Japon. C'est le cas en Corée du Sud en 2016 et 2017, lorsque les Sud-Coréens acceptent le déploiement d'un système de défense antimissile américain THAAD pour faire face à la menace balistique nord-coréenne et que la Chine y répond en multipliant les sanctions avec un impact économique de quasiment 10 milliards de dollars et des grands conglomérats coréens qui pourtant avaient des accès à haut niveau en Chine qui ont dû de fait quitter le pays. Et donc, encore une fois, la prise de conscience européenne, elle est beaucoup plus récente, d'où l'intérêt de partager les expériences avec ces pays. Les Japonais souhaitent le faire depuis très longtemps, les Australiens également. Le cas de la Corée du Sud est un peu différent. Les Sud-Coréens sont dans une position beaucoup plus compliquée que les autres, davantage encore que les Japonais, dans le sens où, dans l'équation sud-coréenne, il y a un autre facteur, qui est la Corée du Nord. La Chine étant l'alliée de la Corée du Nord, la Corée du Sud doit en permanence s'adapter pour qu'elle puisse gérer à la fois les relations intercoréennes, mais également la relation sino-américaine, ce qui rend l'équation pour les Sud-Coréens extrêmement compliquée. La volonté des Sud-Coréens de ne jamais apparaître comme s'opposant à la Chine, d'où par exemple le refus de Séoul de critiquer la Chine sur la question de Hong Kong, sur la question du Xinjiang, d'où la surprise générale quand les Sud-Coréens ont accepté dans une déclaration avec les Américains d'évoquer la question du détroit de Taïwan. Et donc les Sud-Coréens sont dans une situation extrêmement compliquée, doivent faire preuve de beaucoup de créativité sur le plan diplomatique, alors que pour les Australiens, pour les Japonais, la situation elle est également extrêmement compliquée, mais disons qu'elle est un petit peu plus lisible, il y a un tout petit petit peu moins d'acteurs.
Alors, quelques mots sur l'ASEAN, on n'en a pas encore parlé. C'est les pays d'Asie du Sud-Est qui rassemblent, je le dis très rapidement, Brunei, le Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, vous en avez parlé Marc-Julienne, Singapour, Thaïlande et Vietnam. Vous laissiez entendre à propos des Philippines qu'il y avait un début de débat public dans la relation avec la Chine. On avait le sentiment, vu d'Europe, que côté ASEAN, les jeux étaient faits, la soumission à Pékin s'installait, c'est pas acquis.
Ben là, je m'en remets à l'article donc de Sophie Boisseau-Durocher qui explique quand même que ces petits pays, ces 10 pays d'Asie du Sud-Est sont quand même de toute façon sous l'emprise de Pékin et dans un enserrement qui s'accentue. Donc de toute façon, leur marge de manœuvre est très limitée puisqu'ils ont pour certains peut-être le partenariat, je pense au Vietnam par exemple, le partenariat avec les États-Unis à approfondir, mais de manière générale, ils sont de toute façon complètement dépendants de la Chine. Donc à la limite, il y a toute la question aussi, ce sont des pays qui sont très divers en termes de système politique. Certains sont des régimes communistes, sont très proches de Pékin, d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Mais là, en fait, la question de régime démocratique autoritaire pèse finalement assez peu, puisque de toute façon, ils sont totalement dépendants. Mais je voulais revenir sur la question justement du calcul, la grande difficulté que pointait Antoine sur la Corée du Sud. Mmh. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi parmi les différents articles, c'est un certain champ lexical ou un vocabulaire qui est utilisé par différents auteurs, comme tout le funambulisme et l'équilibrisme de la Corée du Sud ou du Japon, qui en fait ne veulent pas, et comme Taïwan, comme les Philippines, la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, ne souhaitent pas entrer en confrontation avec la Chine. Pas du tout. Mais ils s'y trouvent de plus en plus poussés par la Chine d'un côté, avec les pressions qu'on a évoquées plusieurs fois, les pressions militaires, les pressions économiques, et aussi par les États-Unis. Mais en réalité, eux, ils cherchent, évoluent sur une ligne de crête en essayant de garder les relations les plus cordiales possibles et les plus apaisées avec la Chine pour maintenir des relations économiques stables et surtout pas d'entrer dans une crise confrontationnelle. Mais c'est justement parce que la Chine a une position de plus en plus offensive sur tous les plans qu'on a cités, politique, économique, militaire, que en fait, finalement, ce funambulisme et cette ligne de crête devient finalement de moins en moins tenable et que les pays sont obligés, plus le temps avance, à faire un choix et donc à se reposer de plus en plus sur le partenariat avec l'allié américain, à investir de plus en plus des stratégies dites d'Indo-Pacifique que l'on n'a pas encore citées aujourd'hui.
Absolument, j'allais venir.
Et donc tous les pays aujourd'hui s'inscrivent dans ces stratégies d'Indo-Pacifique, craignant justement l'émergence du géant chinois.
Alors ça, ce sont donc des montages multilatéraux. Je voulais qu'on l'aborde. Alors, ces montages multilatéraux, il y a deux choses. Il y a l'Indo-Pacifique d'un côté dans lequel la France aussi souhaite avoir un rôle. Il faut dire aussi que la France a, par ses territoires d'outre-mer, des positions en Indo-Pacifique tout à fait importantes. Il y a le Quad aussi qui rassemble le Japon, les États-Unis, l'Inde, l'Australie. C'est une question pour vous et ensuite en débat, bien sûr, Nadège Roland. Donc, position d'équilibrisme, mais au fur et à mesure que la question très probablement va se tendre entre les États-Unis et la Chine. On a bien vu Joe Biden s'affirmer dans la politique qui avait été celle aussi de son prédécesseur, Donald Trump, de positionnement américain, de rien de laisser passer à la Chine. Évidemment, pour ces pays-là, alors précisément, puisque la confrontation, chacun cherche à l'éviter, est-ce que c'est en construisant l'Indo-Pacifique, le Quad, que l'on peut détourner la problématique et s'affirmer face à la Chine, Nadège Roland?
Oui, je pense que c'est un des outils qu'on a à disposition. Cette confrontation qui apparaît de plus en plus probable est aussi un des moyens pour Pékin de se dire que vous n'avez pas le choix, c'est inéluctable. C'est soit vous acceptez notre prédominance, soit on va au clash. Et donc, c'est aussi, je pense, un moyen pour Pékin de poursuivre cette ascension. C'est pas simplement par hasard que ça arrive. Et même si, effectivement, on peut se poser la question de la contre-productivité de ces efforts, d'un autre côté, si on le voit de cette façon-là, peut-être qu'en fait, c'est un calcul qui est assumé. Sur la, comment dire, cette politique d'équilibriste ou ce refus des pays de l'ASEAN ou de l'Asie en général d'entrer en confrontation avec Pékin. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un discours qu'on entend en Asie du Sud-Est depuis plusieurs décennies. Non, on ne veut pas faire de choix, on ne veut pas choisir entre Pékin et Washington. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus en Europe aussi. Donc cette compétition, cette rivalité sino-américaine, maintenant, en fait, elle a aussi un impact sur la façon dont l'Europe se trouve prise entre le marteau et l'enclume, tiraillée entre ses intérêts économiques et puis sa sécurité, et essayer de faire contrepoids, peut-être. Alors, toute seule, de façon indépendante et dispersée, c'est compliqué. Du coup, ben voilà, il n'y a pas vraiment de diversité d'options qui sont valables, c'est essayer de faire ensemble un certain nombre de choses pour contrebalancer ce géant qui arrive vraiment de plus en plus en force dans le paysage. Le terme Indo-Pacifique, c'est un terme flexible qui est utilisé dans la pensée stratégique américaine pour englober ces espaces maritimes dans lesquels la plupart des flux internationaux transitent, pour faire contrepoids à cette puissance continentale essentiellement que présente la Chine. Après, comment est-ce qu'on peut peut-être institutionnaliser des coopérations? Ben, le Quad, ça fait partie c'est un petit noyau qui peut-être se développer dans la région, mais il y a tout un ensemble de choses qui peut être fait, notamment dans les années 2009-2010, les Américains parlaient d'un traité commercial, le partenariat transpacifique, qui a été complètement mis sur la touche par les démocrates et par les républicains américains. Donc on a peu de chances qu'il renaisse de ses cendres. Mais quelque chose comme ça, en fait, serait très très important aussi. On parle de contrebalance militaire ou stratégique ou sécuritaire, mais ça peut aussi se jouer sur le domaine économique pour essayer de désenclaver en fait cette interdépendance extrêmement forte vis-à-vis de Pékin.
Alors, sous la précédente administration, donc Trump, on parle maintenant des États-Unis, on sentait des inquiétudes, notamment au Japon, notamment en Corée du Sud, sur le soutien américain. On évoquait les départs de soldats, etc. On a bien compris aussi que la question taïwanaise, finalement, était la place centrale dans la confrontation sino-américaine. Qu'est-ce que l'on sait des intentions américaines, très précisément? Il n'y a pas de ligne rouge, Antoine Bondaz et Marie-Julienne?
Alors, ce qui est clair, c'est que le constat est le même que celui de l'administration Trump. Quand des personnes de la Maison-Blanche passaient en Europe, elles évoquaient souvent la fin du narcissisme stratégique, c'est-à-dire l'idée que le modèle américain serait tellement attractif que la Chine changerait et que notamment sur le plan économique et politique, elle se libéraliserait. L'administration Biden utilise un autre terme, ils évoquent la fin de l'engagement. L'engagement au terme américain, engagement, qui est l'idée que ce ne sont pas les échanges aujourd'hui avec la Chine qui vont la convaincre de faire évoluer son système économique et politique. Et donc, le même constat, le même objectif. Ce qui est complètement différent, c'est la méthode, évidemment. Et vous l'avez dit dès l'introduction, l'administration Biden met le paquet, entre guillemets, sur la coordination avec les alliés et les partenaires. On l'a vu avec le premier sommet présidentiel en format quad organisé dès le début de cette année. On l'a vu avec la visite en format 2+2, secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, au Japon et en Corée du Sud. Et c'était la première visite du secrétaire d'État. On le voit avec la coordination tous les jours avec les Européens, avec les Australiens, etc. sur ces questions. Sur la question de Taïwan, effectivement, c'est aujourd'hui ce qui crispe les relations entre la Chine et les États-Unis. Et là où les États-Unis, pour l'instant, réussissent relativement bien, c'est à se coordonner encore une fois avec leurs alliés et leurs partenaires.
Marc-Julien, en guise de conclusion.
Il n'y a pas de ligne rouge, mais la politique qui prévaut depuis 1979, donc l'année où justement les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine, c'est l'ambiguïté stratégique. C'est de dire, on continue, donc il y a eu une loi américaine, le Taiwan Relations Act, qui fixe les relations, le cadre des relations avec Taïwan. Donc c'est des relations économiques, de coopération, etc., mais où les États-Unis ne se prononcent pas explicitement sur si jamais il y avait une offensive militaire chinoise sur Taïwan, les États-Unis interviendraient ou non. Donc cette politique est officiellement toujours valable, l'ambiguïté stratégique, mais les États-Unis semblent réduire un petit peu cette ambiguïté stratégique. Il y a eu l'abolition des restrictions de rencontres entre des officiels taïwanais et des officiels américains. Il y a eu un accord de coopération au début de l'année sur les gardes-côtes. Enfin, beaucoup de signaux, des nouveaux exportations d'armes, etc., qui veulent montrer à Pékin que les États-Unis sont là, sans fixer de ligne rouge, que les États-Unis sont là et que la Chine doit vraiment réfléchir avant de peut-être initier une tentative de reprise militaire de Taïwan.
Merci Marc Julien. Je rappelle que vous avez dirigé le dossier Asie de l'Est face à la Chine dans le dernier numéro de la revue Politique étrangère et que vous êtes chercheur et responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI. Merci aussi à Nadège Roland qui était avec nous par téléphone depuis Washington, chercheuse au National Bureau of Asian Research et Non-Resident Fellow au Lowy Institute, et Antoine Bondaz en studio, directeur des programmes Corée et Taïwan à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Pour aller plus loin, je signale également deux parutions, l'Asie du Sud-Est 2021, bilan, enjeux et perspectives, publication de l'IRASEC, et la revue Diplomatie, dont le dernier numéro est consacré à la Chine. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de la géopolitique de la mode. À demain.